Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Je suis Ala, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
Et on travaille toutes les deux au C3RP, une unité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience. Et plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement. Et on a vraiment le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence, plus connue sous le nom de Florence Mendez. Et Florence, tu vas nous parler aujourd'hui de la question de l'humour dans l'autisme.
Tout à fait.
Bonjour Florence. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
C'est-à-dire tout le monde. Hein. Alors, je m'appelle Florence Mendez et je suis une chroniqueuse et humoriste belge. Et j'ai un spectacle qui s'appelle Délicate, dans lequel je parle de mon histoire, de mon parcours en tant que personne avec un trouble autistique sans déficience et de tout ce qui m'est arrivé suite à ça. Donc, voilà.
D'accord. Et avant que tu nous parles un peu de ton spectacle, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton diagnostic? Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à l'autisme?
Alors, moi, c'est venu... donc, toute ma vie, j'ai senti que j'étais un peu différente, un peu à l'ouest. Et à l'âge de 30 ans, j'ai eu un trouble anxieux assez important, assez sérieux, qui s'appelle le trouble panique. Donc, j'avais des crises de panique qui étaient très, très invalidantes et vraiment terrifiantes. Et c'est suite à ma visite chez un psychiatre pour soigner mon trouble panique que lui a remarqué que j'avais des signes autistiques, donc je me balançais beaucoup par exemple, et même quand il a parlé avec moi, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses qui allaient pas, et donc j'ai été redirigée à ce moment-là vers une neuropsychologue, et alors c'est avec elle que j'ai passé mes tests, et effectivement les aventuriers de la tribu neurotypique ont décidé de m'éliminer. Je me suis retrouvée dans la famille, la grande famille des autistes.
Ça, c'était vers 30 ans, du coup, tu disais?
Oui, c'est ça. Et, j'en ai 35 aujourd'hui.
Et t'en as 35 ans dans la famille des neuroatypiques.
Tout à fait, merci beaucoup.
Et du coup, si on repart vraiment en arrière, est-ce que, a posteriori, tu te dis, mais oui, déjà dans l'enfance, il y avait plein de signes qui pouvaient
tout à fait sur cette piste? Tout à fait, notamment les stéréotypies. Je me suis toujours beaucoup balancée, je me suis toujours beaucoup auto-bercée, parce que je suis quelqu'un qui m'auto-berce beaucoup, c'est un mouvement qui me rassure et qui me permet de m'endormir. J'avais toujours, par exemple, mes jambes qui gigotent tout le temps, ouvrir, fermer des portes non-stop, donc il y avait déjà pas mal ça, beaucoup d'intérêts restreints aussi. Moi, j'avais des intérêts restreints, c'est-à-dire ils étaient multiples, mais quand j'en avais un, il fallait que je l'explore jusqu'au bout. Et c'était des choses, un petit peu, pas orthodoxes pour une gamine de mon âge. Genre à 8 ans, j'ai découvert la Seconde Guerre mondiale et il a fallu que je sache absolument tout. On m'offrait beaucoup de bouquins et ça pouvait aller du ballet, du mécanisme des montagnes russes aux dinosaures et tout. Tout devait être exploré, compris. Et quand ça l'était pas, c'était une source d'angoisse en fait. Donc, d'où le fait que j'essayais de creuser absolument chaque sujet. Je pouvais pas aller sur une montagne russe si j'en comprenais pas le fonctionnement.
D'accord, donc là tu connais tout le fonctionnement des montagnes russes.
Oui, parce qu'en plus j'ai une super mémoire, c'est l'enfer. Vraiment, moi je voudrais bien pouvoir avoir un disque dur externe et foutre les trucs sur le disque dur externe et les machins dont j'ai pas besoin, c'est-à-dire 99% de ce que j'ai dans la tête, dont les trois premiers albums de Laurie, et c'est pas facile tous les jours.
Bonjour Laurie.
Voilà, on embrasse si elle nous écoute.
Ok, et dans les relations avec les autres du coup? Comment ça se passait et...
Catastrophe. Je me souviens d'une fête d'anniversaire, une des rares où j'avais été invitée, et les gens mangeaient des Smarties. Et moi, je voulais pas manger des Smarties, et j'avertissais tout le monde parce que j'avais entendu que les colorants dans les Smarties étaient cancérigènes. Et j'avais pas compris le concept à long terme de cancérigène. Et donc, j'avais une espèce de crise d'angoisse où je disais à tout le monde, il faut surtout pas manger ça, vous allez mourir et tout ça. Et donc, évidemment, tout le monde s'est foutu de ma gueule, quoi. Mm-hmm. Mais voilà, c'était une... Parce que on dit toujours, l'intelligence, etc., mais on garde l'intelligence émotionnelle d'un enfant de son âge. Et donc, pour moi, c'était pas facile. J'arrivais pas toujours à trouver ma place. Et puis, à l'école... Voilà, moi j'avais de l'avance par rapport aux autres, donc j'étais la plus jeune. Donc non, c'était une catastrophe. J'ai eu 7 changements d'école parce que ça se passait mal à chaque fois. J'étais la bizarre de la classe.
C'est tes parents, c'est toi qui décidais de changer l'école ou alors, comment ça se passait?
Le plus dur, c'est que la plupart du temps, c'est les écoles qui conseillaient à mes parents de me changer parce que j'avais des difficultés à m'intégrer, que je ne faisais pas d'efforts pour m'intégrer. On n'était pas encore à l'époque, et là encore c'est pas parfait, hein, mais de l'école inclusive et tout ça. Tout le monde me reconnaissait une grande intelligence, mais aucune intelligence sociale. Et puis c'est vrai que je disais les choses très franchement et très cash, parce que je voyais pas le problème dans le fait de dire les choses très franchement et très cash. Donc toutes les difficultés de l'autisme, avec en plus les difficultés de l'enfance, et dans un milieu très codifié et régi par des codes pas très souples comme l'école, mais évidemment c'était c'était l'échec assuré.
Et donc les écoles finalement ont remarqué que ça n'allait pas en termes d'intégration. Est-ce qu'ils ont proposé quelque chose à un moment?
Non, rien du tout. En dehors du changement d'école, rien du tout. Mais voilà, parce que moi, j'ai cette double étiquette d'autiste et au potentiel. Et donc, on est encore à l'époque où être surdoué, c'est... il faut mettre les surdoués... déjà, ce mot est débile. Enfin, dans les mains de spécialistes. Mmh. Et finalement, c'est pas si grave que ça, parce que je réussis à l'école. Mmh. Et donc, ils s'avouent... on forme les profs à remédier à l'échec scolaire, mais pas du tout à l'échec scolaire en termes d'intégration, de vie sociale, alors que Dieu sait si c'est formateur pour la vie d'adulte, quoi. Et donc, c'était... voilà, encore une fois, mes parents étaient très fiers parce que leur fille était... intelligente, et non, alors qu'en fait leur fille elle était malheureuse, quoi.
Parce que du coup il y avait des tests qui avaient été faits.
Alors j'ai des tests qui ont été faits en maternelle et qui avaient montré effectivement la présence d'un haut potentiel, mais tout a été mis sous toutes mes bizarreries, tous mes pas à côté, tous les trucs un peu chelous que je pouvais faire, tout a été mis sous l'étiquette haut potentiel. Et il n'y a jamais eu avant ça de diagnostic d'autisme. Encore une fois, moi je suis née en 87, donc là l'autisme c'est Rain Man. C'est Rain Man, c'est des gens qui ne parlent pas, qui se balancent. Moi je parle tout le temps. Je parle tout le temps, je m'arrête jamais de parler pour dire des trucs en plus justes, hein, voilà, pas appropriés, pas quand il faut les dire, mais voilà. Et donc je suis pas le profil idéal de l'autisme.
C'est le no filtre, quoi.
Exactement.
Ce profil là.
Voilà, mais pas de enfin, voilà, je suis pas pour des gens non avertis en matière d'autisme. Ouais. Je suis pas une enfant autiste, pas du tout.
Et l'humour du coup quand tu étais enfant?
Très jeune c'est venu. Ma première blague, je m'en rappelle. Ce qui est un peu inquiétant, on est d'accord. J'étais toute petite, j'étais chez le médecin, et le médecin, avec son abaisse-langue, m'a demandé de faire A, et j'ai fait B.
Voilà, mais elle est drôle, ta blague, ouais. Pas mal.
Mais j'étais vraiment toute petite, je devais avoir 3-4 ans, et je me rappelle que j'ai fait rire mon père. Et moi qui n'avais pas une relation avec mon père, il s'était séparé de ma mère très très jeune, et je me souviens que faire rire mon père, j'ai compris que c'était... quand je faisais des blagues, j'avais l'affection de mon papa. Et donc c'est... Mais c'est ça, en matière de souvenirs, c'est assez inquiétant. Mon tout premier souvenir, je m'en rappelle. Et je sais qu'il est très très jeune parce que je suis encore dans un lit à barreaux. Et mon premier souvenir, c'est la texture du barreau, le goût du bois, le toucher froid du barreau sur ma bouche, puisque j'appuyais ma lèvre comme ça. Et donc ça, c'est mon premier souvenir. Et, ouais, et tout le temps, très vite, j'ai développé un humour... qui est venu aussi après avec l'obligation de se défendre. Moi, j'étais très petite, donc je ne pouvais pas taper sur les gens. Ma défense, ça a été la répartie, mais à des points où je n'avais pas de filtre social, encore une fois. Donc un jour, un gamin se moque de moi et me dit « Alors, ta mère, toujours grosse ?» Et moi, je lui dis « Et la tienne, toujours morte ?» On est... Bah oui. Mais encore une fois, voilà, c'est complètement, comment dire, disproportionné par rapport à l'attaque, mais parce que je ne sais pas, je n'ai pas cette notion, et en plus je suis acculée, je suis attaquée. Et donc à la fin, on me faisait plus trop chier, j'étais seule, mais on me faisait plus trop chier parce qu'on savait que s'exposer, enfin m'emmerder, c'était s'exposer à une solide humiliation publique. Hein, parce que
t'avais de la répartie.
Et donc... Donc très très vite c'est venu, et puis je pense que j'ai fort, comme je décortique absolument tout, que j'analyse absolument tout. Je crois que j'ai très vite décortiqué les mécanismes de l'humour et que j'ai fini par les appliquer.
Et est-ce que ça t'a aidé plus tard à te faire des amis, ce mécanisme de l'humour, comment tu l'as décortiqué ?
Oui et non. Alors, ça m'a aidé en tout cas au départ à faire semblant que j'étais quelqu'un de cool. Voilà. Quand il a fallu porter ce masque social. Et parfois, c'était too much. J'étais très vulnérable, donc forcément, j'essayais d'apparaître comme quelqu'un qui n'était pas du tout. Et donc, j'essayais d'utiliser l'humour pour montrer que moi, j'étais cool, que moi, j'étais détachée, que moi, j'étais intelligente, etc. Et puis, parfois, tu es en compétition avec toi-même, quoi. Tu vas dans la répartie pour la répartie et tu finis par juste dire des choses blessantes et pas utiles, en fait. Ouais. Et oui et non, voilà. J'étais un peu encensé pour ma répartie, mais il y avait aussi plein de gens qui pouvaient pas me supporter parce que je les blessais, quoi. Donc c'est pas...
Comment tu gères ça d'ailleurs, hein? Comment tu gérais déjà par le passé?
À l'époque, je gérais très très mal. Quand je suis sortie de l'adolescence, où j'en avais marre d'être exposée constamment au rejet, j'ai fini par dire « j'en ai rien à foutre, moi je suis comme ça, et si les gens m'aiment pas, j'ai pas besoin de leur amour et tout. » Et en fait, après, tu te déconstruis un petit peu, et puis tu peux te rendre compte qu'il y a un juste milieu entre être fidèle à qui tu es, à tes valeurs, à ta personnalité propre, et pas blesser les gens. Donc ça arrive encore, hein, ça arrive encore plein de fois que je mette les pieds dans le plat. Mais maintenant, l'avantage, c'est que les gens qui m'entourent me connaissent, et même profondément, et donc voilà, quand je suis à côté de la plaque ou quand je vais trop fort, ils me disent « Florence, pas ton autiste ». Voilà.
Quand t'étais plus jeune, comment tu comprenais l'humour des autres ?
Alors c'est encore un quelque chose dont je souffre beaucoup aujourd'hui, et c'est que je ne me l'explique pas. Je maîtrise comme personne le second degré, je le reconnais pas toujours. Oui. Moi par exemple, je vais me demander « Est-ce que je peux prendre un verre d'eau ?» Et tu vas me dire « Bah non », et je vais « Pardon ». Et il y a plein de trucs où je ne reconnais pas quand c'est une blague, alors que je suis la première à blaguer. Alors les gens souvent me disent « Ah oui, donc toi tu peux rire de tout, mais on peut pas rire de toi ». Je fais « Non, c'est pas ça, j'ai juste pas compris qu'on rigolait, quoi. Sinon, avec plaisir, rigolez de moi, je vous en prie. » Mais là, ça m'arrive tout le temps de pas comprendre quand c'est une blague. Et du coup, je prenais aussi beaucoup de choses au sérieux.
Oui.
Un jour, et je sais que je suis en train de dire ça alors que des gens écoutent, mon frère, il m'avait dit qu'il y avait des requins dans les toilettes. Et donc, j'ai fait caca sur le tapis. Voilà.
On ne coupera pas.
Surtout pas. Surtout pas.
J'espère que ton frère sera fier. Hein,
voilà, ah oui, il est très content. Oui, c'est une de ses grandes... Mon frère a beaucoup profité de mon autisme. Voilà, pour me piquer mon argent de poche, me faire faire des conneries à sa place. Oui, on embrasse. Trop du cul. Hein.
Et est-ce que ton humour, il a évolué du coup avec l'âge ?
Ouais, il s'est beaucoup affiné. Il est devenu encore plus méchamment efficace. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'avant je portais des coups, maintenant je vise les organes vitaux. Et puis surtout, mais ça après, je pense que c'est une évolution d'artiste aussi, plus que de personne autiste. Au début, votre récompense, c'est vraiment ce mécanisme assez pervers de la dopamine. C'est vous avez votre shot de dopamine quand vous entendez un rire suite à vos blagues, et donc vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour faire rire des gens, même raconter des blagues qui correspondent pas du tout à vos valeurs, des blagues sur le physique, des blagues grossophobes et tout. Et mon humour s'est affiné dans la mesure où je me suis rendu compte que je me sentais mal après d'avoir fait ces blagues. J'avais eu mon shot de dopamine, j'étais contente, voilà, ils avaient ri. Et puis après, je réfléchissais, je faisais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être ce genre d'humoriste, quoi ? Donc, ouais, il s'est affiné comme tout dans ma vie, en fait, pour devenir plus ressemblant à qui je suis et aux choses auxquelles je crois vraiment.
Est-ce que le fait d'avoir justement cette connaissance de tes diagnostics, ça t'a changé quelque chose dans ton humour ?
Complètement. Complètement, parce que Maintenant, j'utilise certaines choses qui je pensais être des points négatifs, et maintenant je les utilise à dessein, c'est-à-dire dans ma palette de couleurs. Quand je m'apprête à peindre un sketch, bah, j'ai la couleur autiste, quoi. C'est j'arrive à me dire, bah, ça j'en ai fait une force. Typiquement les infos cheloues sur les mammouths, les faits ridicules sur la nature, les animaux, tout ça, bah, c'est des choses que j'arrive à utiliser. Et puis des choses qui m'horrifiaient, ce que je pouvais dire, je n'osais pas le dire sur scène. Typiquement, j'ai une scène avec ma belle-mère qui est morte. Et ça, c'est quelque chose de très vrai. Donc, elle meurt et garde son corps à la maison. Et moi, la mort, c'est un sujet qui m'angoisse terriblement, hein, moi et le reste de l'humanité, je pense. Mmh. Et donc, j'ai fait par rapport à la mort ce que j'ai toujours fait par rapport à tous les sujets qui m'angoissent. J'ai tenté de comprendre. Et donc, je suis allée voir ce qui se passait, le processus de décomposition, etc. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait que se dire, on disparaît, et c'est pas... Et donc ma belle-sœur arrive, se penche sur le corps de sa mère et dit, tiens, on dirait qu'elle sourit. Et moi, je pense à son angoisse, et donc je veux lui donner l'explication scientifique de pourquoi il y a ce rictus qu'ont souvent les morts, qui n'y a pas du tout un sourire. En fait, voilà, les tissus, bon, y a une résection des tissus, et ça leur donne l'air de sourire, et c'est dû au dessèchement, ça, voilà. Et je pense vraiment pas mal faire, quoi. Et ça, c'est un truc où je m'étais dit, mais tain, je suis vraiment un être humain horrible. Et en fait, maintenant, d'avoir appris que je suis pas un être humain horrible, c'est-à-dire que j'ai juste appliqué pour quelqu'un d'autre ce que je pensais être le meilleur pour moi. Parce que la mort étant une telle inconnue, tout ce qu'on peut savoir dessus, c'est rassurant, je trouve. Et ouais, ça, c'est des trucs qui m'ont positivement influencé dans mon écriture et dans mes sketchs, parce que c'est drôle.
C'est drôle. Et ça, du coup, ce que tu décris aussi, c'est un côté déculpabilisant de se dire, oui, mais si je fonctionne comme ça, c'est bien parce que j'ai une pensée très rationnelle, ouais, du fait de ma particularité.
Alors, je me déculpabilise, mais je ne m'excuse pas. C'est-à-dire, ouais, que je ne vais pas partir du principe, je ne le fais plus en tout cas, que je suis autiste et que c'est aux autres. Voilà, je pars du principe qu'effectivement, je suis autiste. Je le dis aux gens maintenant, j'ai plus de mal à le dire, mais j'essaye quand même qu'il y ait un juste milieu, qu'on puisse se rencontrer au milieu du chemin, et que eux fassent aussi l'effort de se dire, bon, il y a des petits trucs qui lui échappent, de pas m'en tenir rigueur, mais je m'excuse pas, j'essaye quand même de pas vexer les gens. Par exemple, maintenant, quand j'ai un doute, je vais voir la personne et je dis, excuse-moi, je me rends compte que c'était peut-être pas approprié ce que j'ai dit, je voulais pas te blesser. Et donc voilà, parce que les gens comprennent ou pas, hein, parfois, voilà, il y a des humoristes qui commencent à faire des sketchs sur le fait, ah, excuse-moi, je suis autiste, non, en fait, t'es juste une connasse, bah non, en fait, il y a une vraie... Voilà, c'est... Après, il y a aussi des...
C'est pas contradictoire.
Il y a aussi des connards chez les autistes, hein, il y a des connards partout, hein, de toute façon.
Des connards
partout. Voilà.
Et du coup, sur le fait de faire de l'humour, et des fois d'aller trop loin, c'est un petit peu ce que tu décris, c'est ça?
Alors moi, je pense que le fait d'être autiste a été un grand avantage et un grand inconvénient pour, ouais, moi dans l'humour. Un grand avantage parce que n'ayant pas du tout de filtre, je dis absolument tout. Okay. Je dis absolument tout et je m'en fiche, et parce que j'arrive pas à être choquée par des choses qui choquent habituellement les gens. Par exemple, sur le sujet de la sexualité, moi j'ai une sexualité qui est hyper décomplexée parce que je me rends compte que j'ai du mal à comprendre les codes s'ils sont uniquement sous-tendus par une valeur morale décidée par certains. Et donc, par exemple, les trucs du genre le polyamour, la polygamie au sens négatif, on l'entend, mais le polyamour, les gens qui sont échangistes, des partout, des trucs, je m'en fous, en fait. C'est parce que, voilà, c'est décidé par un ordre moral où c'est pas très bien, c'est les traditions, les machins. Donc c'est vrai que j'ai pas de respect des traditions séculaires, des trucs qui pour moi n'ont pas de sens. Et pour l'humour, c'est pareil. C'est-à-dire que si je ne comprends pas pourquoi un sujet est tabou, eh ben je vais l'aborder, j'aurai pas de problème. Et à la fois le penchant négatif, parce que moi qui essaye de promouvoir la bienveillance et qui crois vraiment profondément en la bienveillance, bah oui, parfois je blesse des gens. Moi, je suis dyscalculique, par exemple, et je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, moi, quand je travaillais dans un vidéoclub, et que je devais, ils étaient contents, les patrons, quand je devais ranger le DVD 3888, à côté du 8883, ouais. Où que je donnais les mauvais films aux gens, bon, ben, c'est drôle. Et donc, je m'en fous, moi, de. Et donc, j'ai un sketch où je fais une blague en disant que le petit Jérémy, il est dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, et je dis, ouais, en gros, il est con. Pour moi, c'est évident. C'est évident que je ne pense pas que les personnes avec un trouble 10 sont cons, puisque je suis moi-même dyscalculique et que c'est drôle. C'est drôle,
c'est
mais.
Pour c'est pour l'humour.
Mais
c'est
oui,
pour
mais.
La blague.
Oui, mais en plus, c'est. Enfin. C'est rigolo, la dyscalculie, la dyslexie, ça fait des situations comiques, quoi. Et ben, il y a plein de gens qui ont été super offensés et super blessés par mon truc. Et j'ai fait la maligne en disant, ouais, je vous emmerde et tout, mais en fait, c'est pas vrai.
Ouais.
J'ai blessé des gens, donc je me suis un peu ratée sur ma blague. Donc ouais, c'est un inconvénient comme un avantage. Je devrais juste comprendre que c'est pas parce qu'il y a des choses qui, moi, ne me blessent pas, que je les vis, qui n'en blessent pas d'autres. Mais encore une fois, je suis aussi convaincue que faire de l'humour, de toute façon, c'est déplaire à quelqu'un à un moment, et qu'on ne doit pas non plus se limiter parce qu'on risque de vexer des gens, quoi. Donc, voilà. Après, dans une certaine mesure, évidemment, si c'est pour faire des trucs racistes, sexistes, validistes et tout, non, évidemment, ça sort de question, mais dans une certaine mesure...
Des blagues de bon goût.
Alors, le bruit que vous entendez, c'est moi qui me frotte les cuisses. Encore et encore et encore. J'ai arrêté, je suis dans le bon endroit pour avoir mes stéréotypies.
Oui, là tu peux te permettre. Et donc là je viens de nous dire un peu ce qui les inconvénients de ton autisme dans l'humour, mais est-ce qu'il y a des avantages?
Ouais, je pense qu'il y a un vrai premièrement un point de vue original. Voilà, parce que on peut pas nous enlever à ça, nous les autistes, on a quand même une vision du monde qui est particulièrement délicieuse et marrante. Et puis je vous dis, j'analyse tout. Alors, par exemple, moi, j'ai fait des études de langue. Donc, je suis linguiste à la base et j'étais fan de la série Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, à un moment, il parle d'Osraki. Alors, il faut savoir que cette langue, elle a vraiment été créée pour la série. Donc, c'est une vraie langue dans le sens où elle a une structure, un vocabulaire, etc. Et ben, comme j'analyse tout depuis que je suis petite, très vite, j'ai pu analyser la structure d'Osraki. Ça ne veut pas dire que je comprenais, mais ça veut dire que j'ai très vite remarqué que Annie, c'était un possessif, que Vos, c'était une négation, les champs lexicaux de la mort qui revenaient, etc. Donc, on est vraiment un cerveau qui suranalyse tout. Et du coup... Je pense que, puisque humoriste, c'est ça, c'est analyser des situations de vie et dire des choses drôles à ce sujet pour que les gens se reconnaissent. Bah, du coup, je pense que mon avantage est que j'ai cette originalité aussi qui vient du fait que je vois des choses que les gens ne remarquent pas. Et ça, c'est assez dingue. Mais maintenant, c'est marrant parce que plus je parle de tout ça et plus je comprends d'où vient ma fatigue permanente, parce que je me rends compte que mon cerveau surchauffe, quoi.
Et comment tu gères cette fatigue, ce coup cognitif et qui est très énergivore?
Je dors. Au début, je me sentais très très coupable de dormir, parce que vraiment dormir, c'est lié à la paresse, à quelqu'un qui dort toute la journée, etc. Et maintenant, je me sens plus du tout coupable. Quand par exemple, je suis partie en vacances avec les filles piquantes avec qui je fais l'émission sur Téva. Je voulais me cacher un peu pour dormir, et puis finalement, parce qu'elles sont merveilleuses, je leur ai dit, les filles, je suis désolée, voilà, aujourd'hui, je vais faire l'impasse sur cette excursion-là, parce que j'ai besoin de dormir. Et je peux dormir vraiment longtemps, quoi. Mais maintenant, je pars du principe que, parce que c'est pas chronique et c'est pas maladif, parce que c'est pas une hypersomnie qui est là tout le temps. Mais c'est vrai qu'après un spectacle, qui pourtant se termine pas tard, hein, genre, je peux terminer à 22h, je peux dormir un jour et demi après sans problème, parce que j'ai une fatigue. Et donc maintenant, je me culpabilise plus. Voilà, j'ai besoin de repos. Mon cerveau a besoin de repos. Le trouble panique, ce qui m'a appris, hein, les crises de panique, c'est arrêter de me faire violence. Voilà. Je peux m'adapter, je peux faire des efforts, je peux faire la moitié du chemin, mais j'ai fini de me faire violence. Ça, c'est fini. Et donc voilà, maintenant, quand j'ai besoin de repos, bah, je dors. Et je dors jusqu'à ce que j'ai plus envie de dormir, et ça me fait beaucoup de bien.
Parce que là, t'as quand même un rythme de vie assez soutenu, donc ouais. Comment tu gères tout ça?
Je voyage en train.
Ouais.
Et jamais en avion, parce que l'avion m'apporte une source de stress de dingue. Le fait de devoir être à l'aéroport, entouré de gens, les aéroports, qui pour les autistes, c'est l'équivalent d'un magasin Desigual, quoi, c'est vraiment l'enfer. Donc je prends le train. Dans les trains, je peux me reposer. Je trouve que le train a l'avantage de, comme en plus c'est un voyage assez long, il t'offre la chance de terminer la tâche que t'as commencé à accomplir au début, ce qui est pas forcément le cas en avion, comme pour les petits trajets, je veux dire. Donc là, je peux lire, écrire, faire des choses qui me détendent. Et le sexe. Alors, le sexe, c'est le seul moment de ma vie où mon cerveau s'arrête. Où j'ai l'impression qu'il file les clés de la boutique au cerveau reptilien, il dit « Allez, vas-y, kiffe !» Et donc, on pourrait penser que le sexe, ce serait un truc a priori hyper envahissant d'un point de vue esthésie et tout ça, d'un point de vue des sens. Ouais. Mais en fait, tout s'accorde, tout est bien huilé, si je puis dire. Et en plus, le sexe engendre une fatigue physique et pas psychologique. Et j'adore la fatigue physique. La fatigue physique, elle est géniale, quoi. Et c'est pour ça que je promène beaucoup mon chien aussi. Mon chien m'a énormément aidée là-dedans. Les grandes balades dans la nature, pouvoir comme ça me mettre dos à un arbre et regarder juste le vent qui chasse les nuages et des trucs comme ça. Et regarder l'autre andouille qui joue avec sa balle, avec les autres chiens et tout. Il y a une simplicité chez le chien qui, moi, m'a appris à me reconnecter avec ma propre simplicité. Là où rien n'était simple. Et c'est pour ça que je dis que j'aime pas les chats dans mon spectacle, mais c'est pas vrai, j'adore tous les animaux. Mais c'est vrai que le chat n'est pas simple. Le chat n'a pas... Le chat doit être approché, le chat doit être séduit, dragué. Le chat est presque un rapport humain, quoi, avec le chat. C'est un peu les hippogriffes dans Harry Potter, tu sais, où tu dois leur faire une révérence
oui,
et tout.
Attendre qu'il t'accepte.
Voilà, c'est ça. Le chien a pas ça. Le chien, c'est simple. Le chien, il est content. Il est content, il le montre. Il est pas content, il le montre et il recommence à être content. Et du coup, ouais, la nature, c'est... Même au cœur de mon trouble panique, ce qui me rassurait, c'était la nature.
Est-ce que tu te fais un safe space dans ta tête pour où tu te mets dans un espace, dans la nature, dans la forêt?
Généralement, ma chienne sent maintenant quand j'ai des angoisses, ce qui est assez extraordinaire. Et elle vient se pelotonner contre moi comme ça, alors qu'elle fait 2 mètres, qu'elle est énorme et qu'elle n'a aucune conscience de sa taille, sans doute.
C'est génial.
Mais elle vient comme ça près de moi et elle pose sa tête sur mon ventre. Elle me regarde. Et ça nous passe ça... Ensemble, à deux. Je sais aussi quand je vais avoir... ça m'arrive encore parfois d'avoir des crises de panique, mais qui sont plus du tout de l'ampleur de celles que j'ai connues. Mmh. Maintenant, j'appelle plus ça des crises d'hyperventilation, quoi. Ils sont pas chouettes, mais qui sont pas du tout... où je m'alarme pas, je vais plus aux urgences et tout ça. Elle le sait, elle se couche aussi d'une certaine position, comme ça, près de moi. Elle me dit « Allez, t'inquiète, ça va aller. » Comme ça, je fais ça.
Dans le langage chien.
Fous-toi de ma gueule. Je pense qu'elle m'imite en train d'hyperventiler.
Exactement ça.
Et là, du coup, parce qu'avec le succès, du coup, tu as beaucoup, beaucoup de relations sociales aussi. Enfin, tu rencontres plein de nouvelles personnes. Est-ce que, du coup, ça augmente ton besoin de te gérer ces moments-là?
Ouais.
Comment c'est tu aussi... gères
Alors, je le dis gentiment. Voilà, par exemple, typiquement, les gens qui m'invitent à venir jouer dans leur salle ou quoi, veulent m'emmener très gentiment, hein, visiter la ville, aller se faire un resto et tout, et ce qui est super. Mais maintenant, j'arrive à le dire. Voilà, je dis, je suis désolée, ça me ferait super plaisir, mais là, j'ai eu un certain nombre d'heures de voyage, et avec mon autisme, ça va me faire beaucoup de stimulation, et donc j'ai juste besoin de mettre mon cerveau au repos un petit peu. Et donc, voilà, je l'explique gentiment, et... Bah, les gens, ils connaissent le spectacle, ils m'invitent pour le spectacle, donc ils sont très compréhensifs et très, très bienveillants. Et voilà, mais il y a des trucs, par exemple, à Bruxelles, quand je joue souvent au Kings of Comedy Club, qui est un peu ma maison mère, après un spectacle, je lave les verres. Parce que laver les verres, c'est un truc répétitif, hein, parce qu'on est vraiment sur un truc de bar avec 3 brosses comme ça de gars qui se collent au fond de l'évier. C'est un truc tellement répétitif que ça me coupe de tout le reste de ce que j'ai ressenti. Et ça m'empêche d'analyser chaque moment de la soirée, chaque émotion, chaque blague, chaque machin. Donc voilà, je fais les verres. Et ça, alors ça fait rire les gens, évidemment, parce que c'est l'artiste qui était sur scène qui fait la vaisselle après, c'est rigolo. Mais moi, ça me coupe de ce truc-là. Mais maintenant, vraiment, et s'il y a des personnes autistes qui nous écoutent, je dirais, c'est simplement pouvoir le dire. Pouvoir dire, écoute, voilà, je suis désolée. En termes d'énergie, là, pour l'instant, j'arriverai pas à le faire. Et si je le fais, je le ferai pour te faire plaisir, mais ça va me causer de l'inconfort. Donc, est-ce qu'on peut faire ça un petit peu plus tard? Ou simplement ne pas le faire, voilà. Et pouvoir dire non, quoi. Et effectivement, on a peur de passer, mais surtout moi, qui j'ai toujours peur de passer pour une diva ou j'ai pas envie d'être vue comme une connasse et tout. Mais donc, pouvoir simplement dire le plus franchement du monde, j'adorerais visiter ta ville, mais si je le fais maintenant en addition au voyage que je viens de faire et au spectacle que je fais ce soir, je vais me sentir mal, ça va finir en crise de panique, ça va finir en crise de larmes. Et je peux pas avoir cette crise de larmes là parce que tout vient alors, quoi. Mmh. Parce que j'arrive pas à compartimenter mes problèmes et donc j'ai une étiquette qui m'a gratté, alors du coup je suis nulle et en plus mon fils il a raté son contrôle de maths et en plus j'ai trop bu la veille puis ma vie amoureuse, donc j'arrive pas à compartimenter, donc voilà, maintenant je sais quand je peux ouvrir les vannes, quand je dois pas. Non, je suis assez fière parce que j'ai retourné mon hyper-analyse contre moi-même. Et finalement, c'est ça, les autistes, on analyse tout, sauf nous-mêmes, en fait. Ce qui est ouf, parce que c'est le premier truc qu'on devrait analyser, c'est notre propre fonctionnement, plutôt que d'essayer de comprendre celui des autres. Mmh. D'abord, comprends-toi toi-même. Je crois que c'est Astérix qui disait ça, connais-toi toi-même. Et
notre grand philosophe.
Oui, ouais. Bah oui, parce que Astérix m'a connu. Mmh. Non, mais c'est vrai, et je remarque ça avec beaucoup de personnes autistes, que finalement... elles apprennent pas à s'auto-analyser, à essayer de se comprendre. Et se comprendre en tant qu'autiste, c'est s'épargner beaucoup de souffrance. Et pouvoir accepter que, ben non, mec, aller au festival I Love Techno avec les stroboscopes, la musique, l'odeur,
c'est. Les gens.
Voilà, c'est pas ouf. Voilà.
Trop de monde.
D'accord, oui, ou alors, peut-être, moi, ça m'est déjà arrivé de passer des bonnes soirées comme ça, mais parce que je me sens bien. Mmh. Mais voilà, alors régulièrement, ben, là, dernièrement, j'étais au mariage de Laura Domange, qui est une de mes co-chroniqueuses sur Piquante. Et voilà, à un moment, je lui ai dit, écoute, je vais avoir besoin de disparaître 3 heures entre le mariage et la soirée, et d'aller dormir. Et elle a dit, mais il n'y a pas de souci. Et quand je suis revenue, bah, j'étais dispo pour la soirée, mais parce que j'avais dormi.
Et en fait, ce que tu décris, c'est que pendant longtemps, tu analysais comment les autres étaient pour un peu ressembler aux autres, pour coller un peu le fonctionnement. Ouais. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le masque social.
Ouais.
Et le moment où tu te comprends toi-même, finalement, tu apprends à enlever ce masque social pour être plus en accord avec toi-même et donc finalement plus intégré. Parce que
c'est clair.
Un peu ça, quelque part.
Ce qui est terrible avec ce masque social, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut pour essayer de se faire intégrer, on essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et finalement, les gens te disent, mais tu sais, faut que tu sois toi-même et ça marchera tout de suite mieux.
Oui, parce que ça se voit en voilà. Fait qu'il y a un truc.
Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est ça qui est terriblement triste, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait tout pour plaire aux autres. Et plus vous faites des choses pour plaire aux autres, et plus vous leur déplaisez, parce que c'est pas naturel. Mmh. Et donc oui, cette suranalyse du comportement des autres, c'était aussi parce que j'étais bien consciente que j'avais un souci, et j'essayais de comprendre ce qui allait pas chez moi. Et pour comprendre ce qui allait pas chez moi, je pensais que j'avais comprendre ce qui allait chez les autres. Donc c'était pas... souvent, je prenais le plus populaire ou la plus populaire de la classe, et je me disais, mais comment... Qu'est-ce qui fait que quoi. Et ça a aussi passé par des phases où moi-même, j'ai pris la position du bourreau. Hein. Quand j'ai vu que le plus populaire de la classe qui s'en prenait aux autres, j'ai ça a pas duré longtemps. Hein. Très vite, voilà, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie d'être ça? Mais putain, ça faisait du bien pour une fois de pas être... de pas être la victime. Mais encore une fois, c'est un truc qui fait du bien... 2 secondes sur le moment et après vous vous sentez misérable parce que c'est nul, quoi.
Mmh.
Mais c'est là où je comprends le mécanisme de reproduction de certaines personnes qui ont été victimes et qui à leur tour deviennent bourreaux, parce que mais heureusement je suis pas tombée là-dedans et je suis très contente de pas être tombée là-dedans.
Et du coup, ton actualité aujourd'hui, raconte-nous un petit peu. Alors on lit avec l'humour, mais pas que.
Ouais. Ah ouais, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pris conscience de mon plein potentiel. et mon potentiel est énorme. Et je savais pas ça. Moi, je pensais que j'ai... Et je trouve que et les gens qui vont écouter vont dire « Ah ben dis donc, celle-là, elle se la pète. » Mais j'en ai rien à foutre. Je trouve qu'on est dans...
Ça m'en confie,
mais on est dans une société qui favorise la culture soi-disant de l'humilité. Et en fait, c'est la culture de l'autoflagellation. Quoi. On ne peut pas se reconnaître, et surtout en tant que femme. Hein. On ne peut pas se reconnaître du talent. On ne peut pas se reconnaître le fait d'être douée dans certaines choses. Sinon, hein. On dit, et je rigole beaucoup avec Instagram, parce que tout le monde dit « Ah, le narcissisme, mais merde, il est temps hein, qu'on puisse s'aimer à poster des photos de soi parce qu'on se trouve beau. » Eh ben oui, poste des photos de toi si tu te trouves beau et valorise-toi et sois content. Après, évidemment, il ne faut pas que ça devienne maladif. Il ne faut pas, encore une fois, c'est le masque. C'est, si tu te trouves beau et que tu veux poster des photos de toi, vas-y. Si tu te trouves moche et que tu poses des photos de toi pour que les autres te confirment que t'es beau, bon, là, il y a un problème. Mmh. Et donc, là, j'explore plein de pistes. Je suis en train d'écrire une série avec un humoriste que j'adore qui s'appelle Yacine Bellous. Je suis en train d'écrire mon premier roman. J'ai mes chroniques. Là, je commence à avoir des petits rôles à gauche, à droite dans des séries. Donc, je me dirige... voilà, j'ai envie de me diriger vers le cinéma. J'ai mon spectacle. Et cette partie-là que je fais aujourd'hui avec vous, qui est cette partie de sensibilisation à l'autisme et à la santé mentale. Et c'est vrai, quand t'es venue, quand j'ai reçu ton... Ah, c'est la partie où je vais repleurer. quand t'es venue au spectacle, quand j'ai reçu ton message sur Instagram, j'avais eu la validation des patients, des personnes qui souffraient de la même chose que moi. Et avoir la validation du corps médical qui longtemps a été mon ennemi, hein, parce que les urgentistes, et je comprends, hein, les conditions de travail de ces gens, c'est horrible, et ils ont tellement autre chose à foutre que je comprends d'accueillir des gens qui sont pas vraiment en danger, même s'ils sont convaincus et tout, mais mon rapport avec le corps médical avait été tellement mauvais que d'un coup, comme ça, t'avoir toi qui est venu et qui a dit, ben, je comprends. Et, par exemple, tu m'as appris un truc, je savais pas, c'est toi qui me l'as dit sur Instagram, que le trouble panique était une comorbidité fréquente d'Asperger. Oui,
tout à fait. Tout à fait.
Voilà. Et donc ça, je savais pas du tout. Et ça, c'est une... je disais, voilà, j'ai eu une conférence en entreprise où je parle d'inclusivité et de comment inclure les personnes neuroatypiques et tout ça. Enfin, je ne suis pas qualifiée pour le faire, mais en tout cas, j'ai donné, voilà, moi, mes pistes et mes trucs.
Et ton point de vue en tant que neuroatypique.
Voilà, ouais. C'est ça. Et voilà, et je suis contente parce que j'ai toujours eu une quête de sens qui m'a beaucoup angoissée. Où le fait que la fin soit la même pour tous et que ça s'arrête à un moment, c'est toujours quelque chose qui m'a fortement angoissée. Et qui m'a toujours fait dire, mais puisque tout s'arrête, alors autant se suicider tout de suite, quoi. C'était, voilà, c'est ridicule, c'est une course que personne va gagner, on court comme des cons. Et je dis souvent que j'ai 5 ans. Et c'est vrai, j'ai 5 ans, parce qu'il y a une renaissance après ce trouble panique. Et maintenant, ça y est, ma vie, elle a du sens. Toutes mes souffrances, tout ce par quoi, tout le rejet... Je dis pas que la souffrance se construit, hein. Je pense qu'on peut se construire de manière heureuse, sans souffrance, etc. Mais en tout cas, ça y est, il y a du sens. C'est pas vain, ce que j'ai vécu. J'ai transformé cette souffrance-là en sens. Voilà. Et la direction, c'est... Je me dis, ben, y a des gens qui n'auront pas eu les 7 minutes que moi j'ai eues, mais qui auront vu mon interview, mon spectacle, et qui se sont dit, ben, je vais peut-être pas sauter, parce qu'en fait, je peux guérir, quoi. Donc ouais, je ne me donne plus aucune limite, vraiment, on pourrait me retrouver, ça se trouve demain, Florence Mendez, parapentiste, vegan, qui plante des cactus, je sais pas, je sais pas, j'explore tout.
Juste, petite parenthèse, tu peux peut-être redire ce que c'est que les 7 minutes, parce qu'on l'a dit hors micro.
Pardon, mais... je disais que les 7 minutes, c'est le temps que ça a pris pour le psychiatre de me diagnostiquer mon trouble panique. Parce que le trouble panique, il est hyper facile à diagnostiquer. En fait, je suis arrivée, j'ai dit, voilà, je sais pas ce qui se passe. À plein de moments, mon cœur s'emballe, j'arrive plus à respirer, je suis convaincue que je vais mourir. Et puis quand j'ai pas ces moments-là, j'ai peur des moments où je vais plus arriver à respirer, où mon cœur va s'emballer et où je vais croire que je vais mourir. Et il m'a dit, oui, c'est un trouble panique. Voilà, donc c'est très très simple. Et donc ces 7 minutes-là, je le disais tout à l'heure en micro, c'est terrible parce que c'est une souffrance telle et une maladie qui est tellement impressionnante que jamais vous vous dites ça va prendre 7 minutes à résoudre, quoi. Et ben si. Et donc voilà, je me dis qu'il y a des personnes qui savaient pas que c'était qui savent pas que c'est une vraie maladie parce que c'est une maladie qui est pas très connue alors qu'elle est plus courante qu'on ne le pense et qui se disent que leur vie est finie et qui s'imaginent pas qu'un psychiatre peut avoir le remède à leur problème, alors qu'en fait, oui. Donc voilà, c'est ça mes 7 minutes.
Attends, il nous fait une belle phrase de fin de Florence.
Je pense que s'il y a une phrase qui est vraie, on l'emploie souvent pour les victimes d'agressions sexuelles, mais je pense que cette phrase, elle marche aussi un peu pour tout, c'est que la honte doit changer de camp. Et je crois qu'il faut arrêter d'avoir honte. Vous n'auriez pas honte d'avoir une jambe dans le plâtre. Et tout ça, le trouble panique, les troubles anxieux, mais même la schizophrénie, toutes les maladies mentales, c'est des maladies de géants, parce qu'il faut être un géant pour vivre ça et combattre ça. Et j'ai un respect et une admiration immense pour tous les gens qui se battent. Et il y a cette phrase qu'on entend souvent qui dit « Be kind, everybody fights a battle you know nothing about », qui est « Sois gentil, sois bienveillant, parce que chacun livre une bataille dont t'as pas la moindre idée. Et c'est vraiment ça. C'est ok de pas comprendre, mais on reste bienveillant. Voilà, on se renseigne, on croit la personne, et on reste bienveillant, parce que je pense que la malveillance peut être hyper destructrice, aussi destructrice que filer de la noisette à quelqu'un qui est allergique à la noisette, quoi. Vraiment. Ouais. Donc, pas rajouter aux dégâts. Voilà. Pour l'avoir vécu moi-même avec mon ex, qui était un con, et je pense que ça, c'est important de le dire au micro. c'est important de pas en rajouter une couche et de rester bienveillant, même si on comprend pas. C'est ok. Ah, et ça, c'est un truc important pour les proches aussi, je pense.
Oui.
Éduquez-vous. Oui. Renseignez-vous. Le psychiatre pose un diagnostic, allez avec, posez des questions, demandez comment, c'est toujours ok de demander, de pas savoir quoi faire et de dire à l'autre qui est en crise, je sais pas comment t'aider, mais j'ai envie de t'aider, mais n'hésite pas à me dire ce dont tu as besoin, comment est-ce que je peux t'aider, ça c'est une bonne question. Pas est-ce que je peux t'aider, parce que ça c'est une question fermée, mais, et que souvent on va dire non, parce qu'on veut pas déranger, mais comment est-ce que je peux t'aider, la question ouverte, elle change tout, je trouve, donc voilà.
Eh ben, c'est merveilleux. Super, si on peut en rire, c'est encore mieux.
Ah, carrément.
Toujours. Donc, merci beaucoup, Florence.
Mais merci à vous pour votre temps, les filles. C'était trop bien. Et du coup, je peux avoir une petite prescription de...
Tu peux, si tu nous fais un autographe sur la prescription.
C'est gentil. Hein. Je fais ça.
On va voir ce qu'on prescrit.
D'accord.
On en discute tout à l'heure. Hein.
En micro. C'était Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Et on se retrouve dans 2 semaines.
Au revoir.
Salut.
Merci pour votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta, C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt!